Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Ce que je voulais, c'est surtout en parler, en entendre parler, avoir une parole qui se libère. J'aurais voulu l'avoir le premier jour, dès la sortie du rapport. J'en avais vraiment besoin et je pense que c'est important qu'on se réunisse tous en paroisse pour discuter de tout ça. C'est primordial et je regrette qu'il n'y ait pas plus de monde, vraiment.
C'est vraiment une nécessité.
Oui, fondamentale. J'ai vécu ça comme une injustice, comme une grosse trahison, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Et le fait d'en parler, voilà, j'entrevois quand même d'autres, une porte de sortie, un nouveau départ. Donc c'est plutôt bien pour moi d'être venu là ce soir.
Combien sont-ils comme Philippe à laisser exploser leur colère, à dire leur honte, leur dégoût, leur tristesse, leur désarroi ? Des millions, sans doute. Des millions de catholiques qui, déboussolés, sont en quête de réponses, qui demandent, exigent des réformes au sein de l'Église et un meilleur partage des pouvoirs. Alors que le silence, l'omerta ont été si longtemps de mise, les croyants ont un besoin impérieux de se retrouver, de se parler, d'échanger, de partager. Ils ont besoin de transparence et de justice. Dans le diocèse de Toulouse, tout comme ailleurs sans doute, des fidèles, en paroisse ou non, organisent des rencontres, des temps d'échange. Le lundi 22 novembre, à l'appel du groupe Les 7 pour faire du 9, une quinzaine de personnes se retrouvaient dans ce que l'on nomme un tiers-lieu. À Toulouse, une des salles de l'église du Sacré-Cœur. Monique.
Je suis révoltée, oui. Je suis révoltée du silence de l'institution église à l'heure actuelle. Notamment de la part de certains prêtres, de certains religieux. C'est honteux. Pour moi, c'est honteux de la façon dont ils agissent envers nous, les paroissiens. Parce qu'ils ne veulent pas nous dire la vérité, ou ils sont eux-mêmes choqués, vraisemblablement, il ne faut pas l'oublier. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent quoi ? La miséricorde de Dieu ? Moi, j'ai une grande foi, une foi très profonde, mais je ne crois plus en l'institution Église. Voilà mon drame. Il y a une telle omerta, comment dire, sur tous ces drames. Et je pense que l'Église a un gros problème avec la sexualité.
Anne Hydreuil. Donc je suis venue ici parce que je fais partie des 7 pour faire du 9. Et la rencontre de ce matin avec des victimes d'abus dans l'Église, je trouve que c'était une excellente initiative. C'est Anne Rebout qui a permis ce travail. Et j'ai trouvé cet échange, on était dans l'authenticité. Et dans des moments de vérité.
On ne peut pas tricher de tout ça.
Voilà, qui sont importants pour prendre conscience. Et bien déjà, le rapport le faisait, mais enfin, quand là, on rentre dans la proximité quand même de quelques personnes. Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose que notre tiers-lieu peut essayer de susciter, des rencontres de ce style, pour qu'il y ait à ce moment-là, peut-être des initiatives qui vont naître, de petits groupes, tout ça, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va devenir, mais je trouve que c'est probablement pour un point de départ. Un point de départ.
Justement, ce tiers-lieu, qu'est-ce que c'est ?
Alors, ce tiers-lieu est un peu particulier.
Anne Rebout.
Parce qu'il se situe précisément à la frontière entre l'Église et la société. Alors quand je dis frontière, bon, normalement, il ne devrait pas y en avoir. Mais disons que c'est un peu un signe d'ouverture de l'Église vers la société, c'est-à-dire qu'on se situe, nous, dans l'Église, mais en même temps, on veut garder cette ouverture totale, cette liberté d'initiative, de conscience, de parole, pour que toute personne qui serait intéressée par les propositions de l'Église, mais serait toujours un peu en délicatesse avec elle, puisse venir s'y exprimer, faire part de ses attentes, de ses besoins. Donc c'est pour moi essentiellement au départ un lieu d'écoute et de parole, mais tout à fait libre. Donc nous sommes accueillis par le père Guillaume Loz, et qui nous laisse une pleine autonomie en tant que laïcs. Bon, il sait comment nous nous situons, et ils respectent cette autonomie. Donc nous pouvons initier des différentes rencontres sur des sujets qui nous tiennent à cœur et souvent des sujets de société. Parce que souvent, dans l'Église, on trouve qu'on est un petit peu limité, peut-être dans nos mouvements, nos initiatives. Et ça nous paraissait important de créer ce genre de lieu aujourd'hui.
Un lieu qui répond à une attente clairement ou non exprimée.
Voilà, actuellement, il y a beaucoup de catholiques qui quittent l'Église, hélas, parce qu'ils ne se sentent plus en accord avec certains comportements, certains dysfonctionnements, notamment actuellement avec le rapport Sauvé. Donc, hélas, il y a beaucoup de personnes, certainement de valeur et de conviction, qui quittent l'Église alors qu'elles auraient beaucoup à lui apporter. Voilà, alors notre initiative, elle est très modeste, elle se situe dans un quartier de Toulouse, enfin on a un rayonnement vraiment modeste, mais on se dit que si des lieux comme ça existaient un petit peu à droite et à gauche, adossés à une paroisse, mais un peu en retrait en même temps, en gardant cette distance qui, à mon avis, est intéressante, ça permettrait peut-être à des gens de retrouver un petit peu les sources qu'ils recherchent, et de partir sur un nouveau pied, voilà, parce qu'on sent qu'il y a un besoin énorme de transformation et de transformation vraiment profonde. Pas seulement dans le fonctionnement ou la gouvernance, mais également dans la façon de porter un message à la société.
Oui, donc c'est une réflexion, une prise de conscience qui est bien antérieure au rapport Sauvé et puis à ce synode qui va s'ouvrir.
Oui, en même temps, c'est vrai que nous avons lancé notre démarche au printemps 2019, au moment où beaucoup de scandales ont été révélés. Et ça a été un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est-à-dire qu'on avait les uns et les autres plusieurs sujets qui nous tenaient à cœur. On avait fait un dossier autour de ces sujets qu'on avait transmis aux nonces. Et on avait l'impression de ne pas avoir été vraiment entendus. Et c'est ça qui nous a mis un petit peu en colère et qui a fait que nous sommes passés à une lettre ouverte et une pétition pour demander justement l'accès à un lieu où on se sent tout à fait libre et qui soit d'ailleurs en vis-à-vis de l'Église, on va dire, institution, pour entrer dans un dialogue, un vrai dialogue, pas simplement une écoute sympathique, mais une écoute qui ne va pas plus loin. On voulait vraiment un échange.
Oui, parce que cette Église, elle vous tient à cœur. C'est votre Église aussi.
Mais oui, tout à fait. En fait, je crois qu'un peu le risque quand on parle de l'Église, c'est de penser simplement Église, institution ou hiérarchie ou responsable d'Église. Alors bien sûr, heureusement, ils tiennent bien cette place. Effectivement, ils sont responsables. On le voit aujourd'hui, ils sont obligés de reconnaître cette responsabilité. Mais je pense qu'on oublie que l'Église, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Nous sommes l'Église.
C'est tous les baptisés.
Exactement. Donc nous avons notre part aussi à jouer. Et nous devons être acteurs et pas simplement spectateurs. On avance à tâtons, mais je pense que c'est mieux d'avancer à tâtons que de rester immobile ou de partir. Et je crois que c'est aussi dans la nature finalement de l'Évangile de nous pousser toujours à faire du neuf. C'est un petit peu notre slogan, les sept pour faire du neuf. Typiquement, l'Évangile ne cesse de nous inviter à faire du neuf. C'est la parabole des vieilles outres et du vin nouveau.
Et les sept, pourquoi les sept?
Alors les sept, parce qu'il se trouve que nous étions sept. Et je pense que c'est un chiffre qui symboliquement est assez important. Alors c'est une petite formule aussi, c'est un petit peu de la com', les sept pour faire du neuf. Voilà, mais nous étions sept et finalement c'est un chiffre qui a un sens aussi, qui a une symbolique dans la foi, dans la Bible. Donc on s'est dit que ça tombait pas mal. Et puis on espère que d'autres petits groupes comme le nôtre puissent se créer sous une forme ou sous une autre, mais avec ce désir vraiment que tout le monde puisse parler et être entendu. Voilà. Parce qu'on n'avancera pas sans s'écouter. Alors c'est un peu, je crois, la proposition aussi du synode, c'est marcher ensemble, s'écouter. Bon, c'est vrai que quand on a peut-être subi des déceptions par rapport à l'Église, on a besoin de lieux comme ça, intermédiaires. Parce qu'il faut aussi que la confiance reconstruise et ça ne se fait pas en cinq minutes. La confiance, ça met du temps à revenir. Donc peut-être que ce lieu, il va servir à ça également. à reprendre confiance, avoir un peu retrouvé l'estime qu'on a de son baptême, puisque en fait c'est ça au départ. Et puis si on arrive à justement exercer cette liberté de conscience, cette parole qu'on essaye d'être la plus vraie possible, eh bien ça peut encourager d'autres à faire de même. Et puis finalement, on a tous à y gagner, moi je dirais que...
Tout à fait, oui. Parce que vous parlez de confiance, et c'était ce matin, il y a une des personnes qui était présente, disait qu'elle n'avait même plus d'espérance dans l'Église.
Oui. Oui, là, c'est très grave. Oui. Mais c'est vrai que quand on voit, bon, évidemment, quand on pense au rapport sauvé, il y a de quoi casser l'espérance, c'est sûr. Donc c'est profond. L'atteinte des personnes est des fois très très profonde. Et je pense que là aussi, c'est peut-être ce qu'on a aujourd'hui à essayer de partager. C'est ces petites graines d'espérance, parce qu'il y a tellement de sujets graves,
douloureux.
On a vraiment besoin d'espérance. Mmh. C'est peut-être ça qu'il faut cultiver en premier.
Alors, Martine, alors je suis, donc j'appartiens à la communauté de vie chrétienne, CVX. Et actuellement, comment dire, disons que pendant longtemps, moi je me suis dit, mais c'est peut-être une solution de facilité, c'est mon lieu d'église. Et du coup, bon, je vais de temps en temps à la messe, mais je ne me sens pas très attachée à une paroisse, et toutes les histoires d'évêques, et, etc., ne me branchaient pas tellement. Et en même temps, ça me pose question quand même, quelle est mon appartenance à l'église ? CVX fait quand même partie aussi de l'église. Et donc, avec ce rapport de la SIAZ, finalement, paradoxalement, au lieu que ça m'éloigne de l'église, je me suis dit qu'après tout, c'était peut-être un bon coup de pied dans la fourmilière et que peut-être il pouvait en sortir autre chose. Et du coup, je m'interroge un peu sur participer à une démarche synodale ou non. Voilà. Et je m'interroge aussi sur le fait de ces questions de contribution financière. En fait, je continue à donner, moi, au denier du culte. Et voilà, c'est une question.
Le mercredi qui suivait à Saint-Jean-de-l'Union, à l'initiative de quelques fidèles, un groupe de paroissiens se retrouvait dans l'une des salles paroissiales. Initiative paroissiale. Le père John était présent, mais un peu en retrait. Là encore s'élèvent des paroles de colère et de tristesse.
Je pense que comme tout le monde, ma première réaction a été évidemment la colère. La colère... L'incrédulité, parce que non pas par rapport à la commission, hein, parce que je sais que certains ont mis en cause les résultats, mais l'incrédulité devant l'importance de ce scandale, parce que j'appelle ça un scandale. Et donc je me suis beaucoup renseignée, c'est-à-dire que j'ai lu le rapport. Je suis abonnée au journal La Croix quotidien, donc en ce moment ils ont repris toutes les propositions de la SIAZ pour les expliquer. Donc je les ai lues les unes après les autres, et puis les commentaires, j'ai lu les différents commentaires de différents chrétiens qui se sont de toute sensibilité, des évêques, des prêtres, des victimes. Pour essayer de comprendre. Et franchement, je suis très dubitative sur sur la possibilité. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Et je pense que la possibilité qu'il y a un changement radical dans l'Église, dans les hautes sphères de l'Église. Je suis beaucoup plus dubitative, donc j'attends. Mais je ne veux pas être totalement négative, mais j'attends de voir si on passe des belles paroles aux actes. Voilà.
Si vous êtes ici ce soir, oui, c'est que vous y croyez quand même un peu.
Bien sûr.
Beaucoup,
exactement. Et j'attends de voir ce qui va être fait pour les victimes. J'entends de voir ce qui va changer aussi dans la façon de gérer ces drames. Voilà. Et j'entends aussi que l'Église sache parler avec des mots qui sont vrais et qu'on ne parle pas d'abus sexuels, mais qu'on parle de pédocriminalité, qu'on parle de viol sur des religieuses, voilà, et non pas d'abus sexuels, parce que dans l'abus sexuel, ça édulcore beaucoup, voyez, pas personnellement, je trouve. Voilà. Et que quand on met ça sous le péché de se traiter comme l'adultère, hein, c'est, mais voilà, ça n'a rien à voir. Hein. Quand on viole un enfant, ça n'a rien à voir quand on trompe sa femme ou son mari.
Donc voilà. vous êtes en colère, je le sens, vous êtes très blessée.
Tout
aussi.
À fait, mais je suis là parce que j'ai d'espérance quand même et que je veux voir si on passe des paroles aux actes.
Voilà. Et cette réunion ce soir, cette rencontre, c'est une nécessité ici sur,
oui,
la paroisse.
Ah oui, tout à fait. Moi, je pense que dans toutes les paroisses, qu'elles soient grandes ou petites, je pense que c'est un sujet qui ne doit pas être laissé de côté. Je pense que tous les chrétiens se le posent. Alors, il y a aussi cette question qui fait que dans l'Église, il y a beaucoup de non-dits. Même les fidèles n'osent pas trop parler. Et ça aussi, ça doit changer. C'est un petit peu aussi peut-être ce qu'on va dire avec les rencontres de synode, peut-être que nous en tant que laïcs, on est baptisés et qu'on a aussi le droit d'être pris en considération, quoi, un peu plus.
Que la parole soit entendue et prise en
compte.
Oui,
tout à fait. Mais c'est plutôt sur un plan général, je veux dire par là, que les prêtres dans nos paroisses, je veux dire, ça ne touche pas. Je veux dire, les réflexions que je fais ne touchent pas les prêtres, enfin, je veux dire, parce que ce n'est pas tout à fait pareil. Le clergé qui est à proximité des paroissiens, et puis les dignitaires, entre guillemets, qui sont dans les hautes sphères, quoi, et qui sont peut-être un petit peu comme tous ceux qui sont dans les hautes sphères, hors sol. Mais ce n'est pas uniquement dans le milieu religieux, ça, c'est pour le dire, c'est possible ailleurs.
Quête de réponse entre abattement et colère, la poignée de croyants présents lors de ces deux rencontres s'interroge, s'écoute, et bien que dubitatif, essaie d'ouvrir des chemins là où il semblerait s'être refermé. Christian, membre de la cellule d'écoute du diocèse de Toulouse, à l'invitation des sept pour faire du neuf, était venu ce matin-là au Sacré-Cœur. Fin de rencontre, bilan, un dialogue fécond.
Oui, j'ai beaucoup aimé ce dialogue. D'abord, on a pu entendre des victimes, et ça, c'est toujours précieux. C'est d'abord eux qu'elles doivent être au centre de notre préoccupation, et c'est elles qui d'abord nous font bouger. J'ai entendu beaucoup de colère, et je pense qu'il faut entendre cette colère. Voilà. Après, je veux dire, chacun doit réfléchir, lui, sa part là-dedans, pour que chacun dans l'Église puisse avoir vraiment sa parole. Et voilà, j'étais content que d'abord les victimes ont pu parler, être écoutées.
Michel est l'une de ces victimes. Dans une économie de mots et dans un climat de confiance, devant la petite assemblée du tiers-lieu, il n'avait pas hésité à témoigner. Au terme de la rencontre dans la cour du Sacré-Cœur, alors qu'au moment où nous préparions le reportage, il avait refusé d'être enregistré, il acceptait de répondre à mes questions. Je l'en remercie infiniment.
Oui, moi, ce que j'espérais dans ce genre de dialogue, c'est qu'on puisse ouvrir à la parole. Ça a été ouvert il y a pas très longtemps avec le travail de la SIAZ. Ce que je vous souhaitais, c'est que ça se poursuive, que ça ne s'éteigne pas. Et donc là, on a pu dialoguer, on a pu s'écouter les uns les autres. Et je pense que l'étincelle continuera d'éclairer un petit peu le chemin qui reste à parcourir.
Oui, un chemin très très long, parce que comme vous disiez, comme nous le disions tous ici, ce n'est que le tout début.
Oui, c'est le tout début. Et puis, mais pour des personnes qui ont été victimes, comme je l'ai été, moi, il m'a fallu 45 ans pour sortir du silence à partir des premiers abus vécus. Donc, je sais que c'est quelque chose qui est difficile, qui est très compliqué, qui peut prendre beaucoup de temps. Mais maintenant que le processus est engagé, il faut l'alimenter petit à petit. Il faut surtout pas que ça s'arrête. Donc, continuons et continuons à sensibiliser l'Église en général, la société dans son ensemble, de manière à ce que ce sujet ne soit plus un sujet tabou, un sujet dont on sait qu'il se passe des choses qu'on ne veut pas voir et il faut surtout taire. Non.
On a beaucoup parlé du silence. Les personnes, vous-même, vous avez beaucoup parlé du silence.
Bien sûr, oui. Parce que les personnes qui ont vécu ça se retrouvent dans l'incapacité de dire. Parce que dire, ça veut dire mettre des mots sur ce qui a été vécu. Et commencer à mettre des mots sur ce qui a été vécu, c'est les revivre à nouveau. Et revivre ce sentiment d'effroi qu'on peut avoir ressenti, on n'en a pas envie. Donc, on essaye de contenir ça, et ça aboutit à son propre silence. Et face à soi, on a des gens qui ne veulent surtout pas entendre. Tout ce qu'ils réclament, c'est « taisez-vous, ne dites rien, silence ». Donc, arrêtons le silence, continuons à parler. Maintenant que la parole est ouverte, allons-y, il faut la croire.
Pour vous, la confiance, cette confiance, elle est venue peu à peu. C'est l'histoire ici d'un long chemin. Ce matin, vous avez témoigné sur d'autres médias, auprès d'autres personnes. Là aussi, c'est une sorte de confiance d'un très long cheminement.
Alors, pour moi, ça a été un long cheminement. D'abord, je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, je vivais en région parisienne. Et tant que j'étais en région parisienne, j'étais dans un lieu, je dirais, où la parole n'était pas permise. Puis, maintenant, je suis parti dans le sud-ouest. Et à partir de ce moment-là, sans doute que j'ai senti la nécessité de parler. J'étais loin de ce qui m'avait blessé dans le passé, et j'ai voulu commencer à parler. Mais en même temps, parler, ça a réveillé tellement de choses, tellement de souvenirs, que ça m'a plongé dans une profonde dépression. Et donc ça a tout bousculé autour de moi. Ça a été très, très difficile à vivre. Mais une fois que j'avais commencé à parler, je ne pouvais plus m'arrêter. C'était devenu une nécessité. J'étais dans une telle dépression qu'il y avait un risque suicidaire, tout simplement. Et voilà.
On a parlé du pardon aussi. Ce terme de pardon est venu à plusieurs reprises. Oui. Et vous disiez que pour pardonner, il faut que la personne, l'abuseur, le criminel, fasse ce chemin de demander pardon.
Bien sûr. Il faut que le pardon, pour moi, c'est quelque chose qui doit être demandé. Et la personne en face peut l'accorder ou non. Il n'est pas obligé de le faire. Et s'il accorde ce pardon, c'est quelque chose, c'est un don plus important. C'est un don qui est fait à l'autre. Je ne vais pas faire un don à quelqu'un qui n'en a rien à faire. Donc si ça n'est pas demandé, ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas parce que l'autre m'aura demandé que je devrais être obligé de le faire. Donc c'est la liberté de chacun. Cette liberté est très importante. Donc j'ai la liberté, si j'étais auteur de violence, j'aurais la liberté de demander ou non. Donc si je demande, c'est que je suis prêt à m'amender, à évoluer. Et si je suis la victime, je dois avoir la liberté d'accorder ou non. Tu me demandes pardon, très bien, je t'entends, mais je ne suis pas prêt. On peut aller jusqu'à « tu m'as demandé pardon, maintenant je suis prêt, je t'accorde le pardon ». Mais c'est quelque chose qui est grave. Si j'ai accordé le pardon à quelqu'un, c'est quelque chose que j'estime être définitif. Donc il faut que j'ai une grande sécurité, une grande sécurité par rapport à ça, que la personne à qui j'ai accordé le pardon a vraiment changé. Enfin, ça ne peut pas se donner à la légère.
Toujours en état de choc après les révélations du rapport Sauvé, tant à Toulouse qu'à l'Union, plus de 2 heures durant, les fidèles ont pu largement s'exprimer. Des échanges libres et sans concession. Un dialogue fécond. Régine Merle, à l'origine de la rencontre dans la paroisse Saint-Jean de l'Union.
Une nécessité, c'est une reconnaissance de ce qui a été fait. Alors nécessaire, on a toujours l'impression que c'est nécessaire qu'il va y avoir des répercussions effectives. Là, non. Mais je pense que dans les consciences de chacun, quelque chose a bougé, que chacun se sent concerné, qu'on ne voit pas cela comme un fait extérieur, qui n'est pas de notre responsabilité, mais au contraire, que nous avons chacun une part à jouer.
Oui, mais ici, dans la paroisse, ce sont des paroissiens, vous connaissez tous.
Oui.
Donc, la parole avait besoin d'être dite. Chacun, oui. Les uns et les autres sont venus ici.
Oui.
J'ai senti une grande colère, de la souffrance.
Oui. Oui.
Un besoin de parler ensemble, de partager.
Oui. Le fait d'avoir entendu la parole des victimes, je pense, nous renvoie à notre propre parole. C'est-à-dire que chacun peut dire aussi ce qu'il a ressenti, plutôt que de le garder pour lui, comme ça a pu être fait pendant assez longtemps.
Le silence
surajoute au silence. Et là, ces réactions par rapport aux révélations du rapport, mais aussi aux préconisations, permet de pouvoir prendre sa part active dans le devenir, dans ce nouveau visage de l'Église ou dans cette rénovation du visage de l'Église.
Et parce qu'il est bon d'être à l'intérieur de l'Église pour mieux la transformer, dans le diocèse et ailleurs, bien d'autres rencontres ont rassemblé des croyants désemparés qui ne s'interdisent pourtant pas d'espérer.